Here we go with the main event of the evening. Let's get ready to rumble.
Ask, what goes what? Sur les ondes pour mon bla bla bla. On y croit, naturopathie. Life de Rosemont, Arturo Garci. On va jouer, carte sur table. J'en pense quoi du combat de Jean-Pascal? On va passer pro, boxe et podcast. Laurent c'est pour parler, bienvenue sur le podcast.
And the
cette édition du podcast Laurent s'écoute parler, saison 2, vous est présentée grâce à nos fiers commanditaires chez Option Notaire et Farley Avocat. Grâce à eux, Laurent n'est pas tout seul à s'écouter parler. Vas-y Laurent, on t'écoute.
En direct de ton podcast préféré, c'est l'épisode numéro 57. Je pensais me rendre à 57 vu que je veux me rendre à 1000. 57, c'est quand même un assez beau chiffre. Ça peut être aussi l'épisode 5 de la saison 2, dépendamment où vous voulez vous en tenir. Chronique Marie-Pierre Houle. Grosse semaine, c'est ma 7e journée dans la semaine. Moi, je travaille à tous les jours, tu sais, je me casse pas trop le basic avec ça. Aujourd'hui, je travaillais et j'avais hâte que ça finisse. Pourquoi? C'est parce que j'avais hâte de venir vous parler. Le chiffre 57 est souvent associé au ketchup Heinz qui avait fait une publicité pour dire qu'il y avait 57 variétés du ketchup, mais c'est pas vrai pantoute. Le ketchup Heinz nous vient de Pittsburgh. C'était l'anecdote du jour. Et Joe DiMaggio avait signé une méga publicité pour son 57e match avec au moins un coup sûr. Toutefois, il n'a jamais frappé ce coup sûr-là, fait que le contrat n'a pas eu lieu avec Heinz. C'était la chronique publicité du jour. Aujourd'hui, pour l'intro, pas grand-chose à dire. On est en couvre-feu. Le Canadien ne perd plus la moindre rencontre. Et dans le monde de la boxe, il y a eu quelques petite annonce. Marie-Ève Dicker a confirmé son combat contre Clarissa Shields le 5 mars prochain. Et j'ai une très bonne nouvelle pour vous. On reçoit Vincent Morin, qui est le meilleur chroniqueur de l'histoire du 98.5 Sport. À l'époque, il y avait une chronique. On va parler 15 minutes de Marie-Ève Dicker avec Vincent Morin. Et comme je suis le podcast qui n'a pas tendance à couper les coins ronds, je veux vous dire que cette semaine, j'étais en beau tabarouette après mon parrain, Régent Tremblay. Faut que je l'appelle d'ailleurs pour y en parler. Quand ils ont annoncé le combat entre Marie-Ève Dicker et Clarissa Shields, un combat qui, je le rappelle, est un combat d'unification complète. Ils en ont à peine parlé 45-50 secondes à radio. Steven Butler se bat dans une ville que je ne suis même pas capable de nommer. Ils en ont parlé 6 à 8 minutes. Et ils ont parlé 3 minutes. Camille et Stéphane a décidé de se diversifier. Lance une nouvelle bière. Okay? Ils ont parlé 10 fois plus de la nouvelle bière, la reine des bières, qu'ils ont parlé du combat entre Marie-Ève Dicker et Clarissa Shields, parce qu'au niveau de l'importance, là, une nouvelle bière de microbrasserie versus un combat d'unification complète, quand tu es une émission de sport, tu devrais faire les choses autrement. Et j'étais en colère, mais toutefois, c'est une compagnie privée, ils font bien ce qu'ils veulent. Donc, on va remettre les pendules à l'heure et on va en parler, pas à peu près du combat de Marie-Ève Dicker, un défi immense. On va parler de la carte, bien sûr, qui a lieu à Cuernavaca, au Mexique, avec Sadrizin Akhmedov contre Stephen Daniel et Steven Butler contre José de Jesus Macias. Une carte très intéressante. On a des J'ai pas de nouvelles, mais j'ai des gens qui me parlent du gala du 26 février prochain au Théâtre Plaza, je pense à Québec, présenté par le groupe Yvon Michel. Vous allez voir, c'est étrange. Personne ne veut me dire qui va se battre, mais beaucoup de gens me titillent en me disant « Tu vas être surpris, tu vas être surpris. » Mais ils ne veulent pas me dire qu'est-ce qui se passe, les salauds. Donc, je vais vous dire ce que j'entends à propos du 26 février prochain. On va parler d'une carte qui a lieu en Floride vendredi prochain avec le retour de Berman Stiverne. Et pour le reste, on va parler... Voulez-vous parler de Pacquiao contre McGregor? On va en parler 15 secondes. Et on va faire la tournée internationale. C'est le podcast numéro 57 de ton émission préférée, Laurent. S'écoute parler.
Puis on croit en nos moyens, on croit en nos chances. Et on n'irait pas dans ce combat-là si on n'était pas convaincu qu'on pouvait gagner.
J'aimerais ça qu'on me reconnaisse comme un héros. Puis c'est toujours un peu long avant qu'on me fasse une statue ou... C'est simplement un monument ou une statue de cire au musée Grévin. Là. J'ai hâte d'être reconnu à ma juste valeur. Pourquoi? Parce que présentement, c'est le seul temps que j'ai de vous enregistrer un podcast. Okay? Je me prive, dites-vous bien, d'un match entre Tom Brady et Aaron Rodgers pour être seul dans une cuisine humide de Rosemont à vous enregistrer un podcast. Okay? Je ne suis même pas devant ma télévision et je suis un grand fan de football professionnel. Présentement, c'est 14-10 pour Tom Brady contre les Packers. C'était la chronique football. Je pense que les Bills vont gagner le Super Bowl pour faire plaisir à mon ami Jean-Philippe Ouimette. On a appris cette semaine, OK, ça faisait depuis le 9 mai dernier qu'on se faisait dire « ça s'en vient, ça s'en vient pas ». Un combat entre Marie-Ève Dicker et Clarissa Shields. Et j'ai écouté toutes les entrevues que Marie-Ève Dicker a données. Elle était à l'émission de Evelyne Audet au 98.5. Elle est allée à Jean-Charles Lajoie. Et est allée au 91.9. Et je dois lui lever mon chapeau très haut, OK. Parce que qu'est-ce qu'on veut en boxe professionnelle? On veut que les meilleurs s'affrontent. Et on veut, dans la mesure du possible, quand l'argent est là, quand c'est, ça a du bon sens, qu'on ait les combats entre champion versus champion pour être capable de dire qui est le numéro 1 de la division, sans aucun doute. Et qu'est-ce que ça nous prenait pour ça? Ça prenait un combat entre Clarissa Shields à 154 contre Marie-Ève Dicker. Shields, pourquoi elle tenait autant à Dicker? C'est qu'elle a unifié les 168 livres, là, tenez-vous bien. Elle a unifié ça à son, je pense que je vous dirais, là, de mémoire, là, à son peut-être sixième combat contre Anna Rankin. Elle a unifié toutes les ceintures. Okay? Après ça... Non, qu'est-ce que je vous raconte là? Elle n'unifiait pas toutes les ceintures. Elle est devenue championne unifiée des 168 livres. Après ça, elle est allée battre Anna Gabriel et Anna Rankin pour unifier les 160. Après ça, elle s'est pointée chez les 154 et elle a ramassé beaucoup de ceintures contre Ivana Abazine. Donc, elle est double. Elle est championne du monde à 168 livres, elle a unifié. Merci, bonsoir, elle a abandonné les titres. À 160, elle a unifié. Contre Christina Hammer, elle a fini son unification. Elle n'a jamais abandonné les titres avec la COVID. Donc, elle veut devenir la double championne unifiée des 160 et 154. Simultanément, ce serait un nouveau record. Elle aime ça, à battre des records. Donc, elle avait besoin de Marie-Ève Dicker. Sur le ring, Clarissa Shields, je vais vous parler franchement. Je suis pas inquiet pour Marie-Ève, mais je vois pas comment Marie-Ève va pouvoir gagner ce combat-là. Parce que Marie-Ève, pour se préparer à ce combat-là, puis c'est toujours moi comment je vois ça, la boxe. Là, je vois ça, puis je reviens souvent avec l'image de l'escalier. Je vois ça comme un escalier. Là, tu montes ton escalier tranquillement, on t'amène tout le temps de nouvelles marches, puis là, t'apprends où tu déboules, t'sais. Marie-Ève, elle, a monté un escalier. Contre Chris Namus, elle a fait beaucoup de marches, OK? Après ça, elle est restée sans même marche, t'sais. Michaela Loren, là, est sortie de sa retraite, puis elle a accepté de boxer 13 jours après, parce qu'elle avait besoin de la bourse pour payer sa fécondation in vitro, OK? C'était une fille de 43 ans qui lançait des coups uniques, qui était une ancienne médaillée, non, une ancienne olympienne en natation. Elle était en shape, mais elle avait 43 ans. Puis elle lançait des coups uniques, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Après ça, ils sont allés chercher Maria Lindbergh, qui elle aussi avait 43 ans, qui ne pouvait pas matcher la vitesse de Marie-Ève. Après ça, ils sont allés chercher Ogledis Suarez, une fille qui était classée chez 147, qui avait passé sa carrière à 130 livres. Là, vous voyez le pattern. Deux filles de 43 ans qui lançaient des coups uniques, des Suédoises. On arrive avec Suarez qui est beaucoup plus petite, qui avait un palmarès qui n'a pas de bon sens. Toutes ses victoires étaient obtenues contre des fiches déficitaires. Et là, du jour au lendemain, boum, Clarissa Shields qui s'est juste battue contre l'élite, qui est allée chercher ceinture après ceinture, double médaille d'or olympique. Est-ce que Clarissa Shields lance des coups uniques? Aucunement. C'est une fille qui travaille en explosion, qui travaille en combinaison, qui va être plus rapide que Dicker. Tu sais, toutes les qualités qu'on permettait, pas les qualités, mais le fait que c'était Marie-Ève qui était le côté A de l'équation depuis le début de sa carrière, on choisissait ses adversaires pour s'assurer que c'était des filles qui étaient moins vite. Des filles qui travaillaient en coup unique, puis là, Marie-Ève, elle pouvait flasher la vitesse puis les combinaisons. Contre Clarissa Shields, ça ne fonctionnera pas. Il n'y a rien qui va fonctionner. Il n'y a aucune case où on peut cocher Marie-Ève en avance sur Clarissa Shields. Au niveau de l'expérience, oubliez ça, l'autre, elle a 80 combats amateurs, puis elle a déjà 9 championnats du monde, puis elle a eu 11 ceintures, tu sais. Du côté de la force de frappe, on ne peut pas le donner à Marie-Ève. Du côté du menton, on pourrait le donner à Marie-Ève parce que Clarissa Shields est allée au tapis contre Anna Gabriel, mais Marie-Ève n'a jamais été testée quand tu regardes le nom de ses adversaires. Donc, on est vraiment dans un combat où Shields est favorite gros comme le bras. Mais, on en revient toujours à ça, Marie-Ève, si elle fait une performance honnête, si elle voit la cloche à la fin, et par le fait qu'elle a un peu vendu son titre IBF à Clarissa Shields, elle a probablement obtenu des garanties pour la suite des choses. Soyez pas surpris, si advenant une défaite où Marie-Ève ne se fait pas passer le KO, elle soit automatiquement en championnat du monde dès son combat suivant face à... Je me rappelle, je viens de perdre son nom. Tu sais, quand les affaires vont mal, il y a une fille, là, Raquel Miller, une fille qui était venue boxer à Montréal, qui, soyez pas surpris si, tout de suite après la victoire, Clarissa Shields abandonne son titre et que Marie-Ève affronte Raquel Miller pour le titre, WBA ou quelque chose comme ça. Miller qui va être, cherchez pas de surprise, là, Miller est cédulé sur la même carte. C'est elle qui va faire la demi-finale du combat entre Shields et Dicker. Donc, on se casse pas le basic, rien de trop compliqué. Donc, Marie-Ève Dicker, Clarissa Shields, Fit TV, 29,99 US, j'ai hâte. Cette entrevue avec Vincent Morin vous est présentée par le Resto Bar, le coin du métro. Costa Ananostopoulos vous demande de ne pas l'oublier et d'être présent à la réouverture des restaurants au 10719 rue La Jeunesse à Montréal. Les ailes de poulet sont fantastiques et la pizza vous donnera le goût d'y retourner encore et encore.
All right.
J'avais besoin d'un chroniqueur, d'un analyste et d'un matchmaker. J'ai fait un téléphone, j'ai réglé les trois. Salut Vincent Morin.
Salut, comment ça va?
Bon, ça va assez bien. On est jeudi lors de l'enregistrement. Vincent, tu es la personne ressource aujourd'hui. Après des mois d'attente, Marie-Ève Dicker a eu son combat contre Clarissa Shields. Et là, oui. Shields, là, elle se prétend elle-même être la greatest woman of all time, mais elle a beaucoup de réalisations. Parle-moi de Clarissa Shields. Qu'est-ce qui fait qu'elle peut se considérer la meilleure de l'histoire?
Ben d'abord, 2 médailles d'or olympiques, chose qui a pas été, qui pouvait pas être faite avant parce que, naturellement, les femmes n'étaient pas admises en boxe aux Jeux olympiques. Donc, son parcours amateur est irréprochable. Mais une seule défaite contre Savannah Marshall, qui d'ailleurs, éventuellement, ça peut faire un super combat chez les professionnels. Donc, il y a une histoire en arrière de ça. C'est un combat qui risque d'être vendeur. En frais d'adversaire, je veux dire, elle a dominé toutes ses rivales, sauf peut-être être allée au tapis une fois en carrière. C'était, si je ne me trompe pas, contre Anna Gabriel, la costaricaine. Donc, elle a été dominante. La seule chose par rapport à Clarissa Shields, c'est qu'elle est explosive, elle a les mains super rapides, elle a un bon boxing IQ. Mais il faut qu'elle arrête de se prendre pour Deontay Wilder. C'est pas vrai qu'elle cogne si dur que ça. C'est une boxeuse ultra rapide, elle a les mains vives, elle est intelligente dans un ring, mais c'est pas la personne qui va avoir les capacités athlétiques les plus incroyables. Est-ce qu'on a pu regarder les vidéos là, d'elle en arts martiaux mix? Ses coups de pied, là, c'est pas très joli. Là. C'est pas quelqu'un qui est le niveau d'une ceinture noire de karaté. Là. Puis on a pu voir aussi à l'émission de... NBC, je me rappelle pas le nom, c'était, t'avais des espèces de tests d'agilité, là. Je me rappelle pas exactement du nom de l'émission, mais elle a perdu à chaque fois, je pense qu'elle est 0 en 3, là. Donc, côté niveau habilité, agilité, comme boxeuse, elle est excellente, mais je crois pas que c'est la personne avec les capacités athlétiques les plus naturelles. Je crois pas que c'est quelqu'un qui a naturellement de la puissance non plus. Donc, tu sais, beaucoup de confiance du côté de Clarissa Shields, mais en même temps, je me dis, est-ce qu'elle est imbattable? Non, elle n'est pas imbattable. Donc, du côté de Marie-Ève, c'est sûr que c'est de loin son plus grand défi en carrière. Jamais Marie-Ève va avoir affronté une boxeuse avec autant de talent, autant d'explosivité, autant de hargne, autant de vitesse. Donc, c'est sûr que c'est un grand test. Présentement, oui, chez les femmes, c'est la meilleure boxeuse livre pour livre. Est-ce que je crois que c'est la meilleure de tous les temps? Je crois qu'il est encore un peu tôt pour ça. Leila Ali, puis moi, pour moi, la meilleure de tous les temps, c'est probablement Anne Wolfe. D'ailleurs, elle n'a pas la puissance d'une Anne Wolfe. Anne Wolfe frappait comme un homme, vraiment comme un homme pour moyen. Donc, on a pu voir des chaos percutants. Celui sur Vonda Ward, ça va rester dans les annales de la boxe pour toujours. Il n'y a pas aucune femme qui avait une force de frappe à ce point-là comme Anne Wolfe. Elle faisait peur, un peu à la Deontay Wilder. Pour moi, c'est pas le cas du côté de Clarissa Shields.
Mais... Donc, avec ce que tu viens de dire, là, t'ajoutes pas le point que Marie-Ève s'en va. On lit des fois Marie-Ève s'en va à l'abattoir, ça. J'aime pas ce terme-là, mais Marie-Ève a des. Est-ce que pour toi, je vais poser la question tout de suite, là, sans faire de détour, est-ce qu'elle a des chances légitimes de gagner contre Clarissa Shields?
C'est un combat qui est quand même difficile. Clairement, Clarissa Shields est la favorite. Par rapport à ça, tout son bagage, par rapport aussi que le combat est chez elle à Flint. Est-ce que les juges vont être impartiaux? Tu sais, ce combat-là va aller à la limite. Il y aura pas de, je pense pas que ça va être un combat qui va se finir par arrêt de l'arbitre. Marie-Ève est solide, elle a prouvé qu'elle avait un bon menton, elle prend pas de coups pour rien. C'est une boxeuse extrêmement rapide, une technicienne hors pair. Est-ce qu'elle va aller chercher une décision là-bas? Ça va être difficile. Donc, c'est sûr et certain que, comme j'expliquais, qu'un Clarissa Shields est favorite. Est-ce qu'une décision peut se... Écoute, tout est possible. Ça a été prouvé que Clarissa Shields pouvait être envoyée au tapis aussi. Donc, tu sais, Marie n'avait pas reconnu pour sa puissance, mais tout peut arriver dans un combat de boxe. Pour moi, je m'attends, honnêtement, même si je souhaite une victoire de Marie-Ève Dicker, puis je lui souhaite vraiment, tu sais, honnêtement, moi, j'ai travaillé avec elle, puis c'est une personne exceptionnelle. Elle était d'ailleurs à mon mariage, là, donc c'est une amie. Je lui souhaite la victoire. Personnellement, si je pense avec ma tête, je vois Clarissa Shields remporter une décision unanime, peut-être un 6-4 ou un 7-3. Mais personnellement, je souhaite une victoire de Marie-Ève Dicker. Mais est-ce que Marie-Ève va être déclassée dans ce combat-là? Moi, je crois pas. Je crois qu'elle va prouver qu'elle est de calibre. T'sais, elle est championne du monde et elle va prouver qu'elle fait partie de l'élite de la boxe.
Et Vincent, le cliché est gros comme le bras, mais tu sais, des fois, je trouve qu'il s'applique. Des fois, un boxeur va perdre contre quelqu'un. Mettons que tu es négligé à 10 contre 1, puis tu perds un combat serré, on va dire que ta valeur est augmenté malgré ta défaite. On l'a vu un peu comme Oscar Rivas contre Dillian White, c'est en plein ça. Moi, ce que je pense, puis je te pose la question parce que toi, tu es dans les rouages de la boxe, puis des fois, les secrets. Dis-moi si c'est de la folie. Marie-Ève, elle a quelque chose que Clarissa Shields voulait absolument, le titre IBF qui permettait d'avoir la double unification complète en même temps. Parce que Clarissa Shields, on dirait qu'elle tripe sur son palmarès, puis elle tripe sur sa legacy, comme on dit en québécois. Est-ce que l'impression que tu as, la même que moi, que Marie-Ève a négocié peut-être la suite des choses aussi? Est-ce qu'il y a un autre combat de championnat du monde après? Est-ce qu'il y a une autre présence à la télé? Ou un montant d'argent qui est, sans dire dérisoire pour la COVID, mais elle avait le gros bout du bâton dans cette négociation-là?
Tu sais, du côté de Marie-Ève, peu importe le résultat, elle n'est pas pensée que ça va être son dernier combat. Tu sais, c'est sûr et certain qu'elle va toujours avoir de... C'est quelqu'un qui est dans le gymnase, qui est toujours en forme, qui s'entraîne toujours. Peu importe ce qui va arriver avec Clarissa Shields, il va avoir un autre but en arrière pour Marie-Ève Tiguerre. Est-ce que ça va être de descendre à 147 livres et d'aller chercher une autre division? C'est possible. Tu sais, Marie-Ève, à l'époque, elle a commencé à boxer chez les pros aux alentours de 140 livres. Elle est montée à 147, puis à 154. Mais elle est capable de faire 147 sans problème, là. Donc, est-ce qu'elle peut aller se diriger vers cette division-là? Ça peut être très bien aussi, là. Donc, du côté de Clarissa Shields, moi, je m'attends à, par exemple, si elle bat Marie-Ève, moi, je m'attends à voir un combat avec Savannah Marshall, probablement aux alentours de 160 livres. Donc, tu sais, on va avoir une boxeuse, au contraire, du côté de Shields, selon moi, qui va monter de poids, puis du côté de Marie-Ève, qui va probablement descendre chez les 147 livres. C'est, selon moi, c'est vers ça que ça s'en va.
Non, mais Vincent, j'imagine le scénario drive, on va juste se projeter dans le futur. Imagine Marie-Ève qui paraît bien dans une défaite, descend à 147 livres, c'est quasiment le nom qui a le plus de valeur pour Jessica McCaskill ou éventuellement Katie Taylor, tu sais, pour avoir... une suite des événements très intéressante, puis on capote trop avec le fameux zéro, tu sais, en boxe, puis en boxe féminine, ça existe quasiment pas, le zéro. Tu sais, tu peux facilement perdre un combat, revenir, puis être sacré championne du monde à multiples reprises.
Layla McArthur a été signée avec l'équipe de Floyd Mayweather, elle a plusieurs défaites. Chez les femmes, le fait qu'il y ait moins de... pas moins de compétition, mais nécessairement, il y a moins de boxeuses. Donc, c'est sûr et certain que tu vas avoir des fois des boxeuses avec un palmarès qui est pas fameux, mais tu en as certains qui sont devenus champions du monde avec des 8, des 10, des 12 défaites, ça se peut. Donc, tu sais, il suffit de regarder le niveau d'adversité. Présentement, Marie-Ève a une fiche parfaite. Mais peu importe qu'elle gagne, qu'elle perde contre Clarissa Shields, le fait qu'elle ait boxé à ce niveau-là, c'est sûr et certain qu'elle va devenir un nom attrayant, que ça soit, comme t'expliquais, avec des Katie Taylor, des McCaskill, ou même des Delphine Parsons, tu sais, des boxeuses de bon niveau, là, 140-147 livres, il y en a. Là. Puis des combats intéressants, Mario Dicker, il va en avoir encore. Là. Puis pour les 3-4 prochaines années, certainement.
Vincent, je t'enlève ta casquette d'analyste. Puis là, je veux que tu prennes ta casquette de gars de relations publiques. Tu as eu, si ma mémoire est bonne, tu as eu affaire avec Sergei Kovalev déjà dans ta vie. C'est un idiot, ça?
C'est... Écoute, moi, personnellement, quand on avait été au Texas pour le combat avec Yolanda Alvarez, quand on avait été là-bas, il avait été sympathique avec tout le monde. J'avais demandé de signer des gants pour la fondation de la conjointe à Yvon Michel. Puis honnêtement, ça s'était bien passé. Il était sympathique avec tout le monde là. Peut-être que c'était une façade, je ne sais pas exactement. Tu sais, je ne connais pas personnellement. Moi, les fois que j'ai eu à travailler avec lui, je n'ai jamais eu de problème. Les entrevues aussi en tant que journaliste, je n'ai jamais eu de problème avec lui. Mais écoute, il y a des gens, quand ils prennent un coup, quand ils sont dans l'alcool et qu'ils sont sur le party, qui deviennent une autre personne. C'est peut-être le cas de Sergei Kovalev, malheureusement.
Au niveau des performances, as-tu l'impression qu'il était peut-être surhumain à certains... stade de sa carrière avec ce qu'on a su cette semaine, les stéroïdes de synthèse?
Je vais te répondre ça de façon assez singulière. Quand tu te fais prendre une fois à tricher, toute ta carrière va toujours être sur un bémol. On va toujours se demander si tel ou tel combat, si la personne était sur le gros jus de l'avion. Ça va rester comme ça pour Sergei Kovalev, malheureusement.
Ouais. Ton autre chapeau, c'est le chapeau de matchmaker. Puis là, et moi, Vincent, là, dans ma tête, là, tout est malice, tout est complot dans ma tête parce que je me fais trop prendre avec la COVID-19. Là, je vois des complots partout. Là, je vais te dire l'idée que j'ai, puis je m'adresse au matchmaker, OK? Le combat de Steven Butler contre Jesus José Macias, est-ce que le matchmaker, lui, moi, je vois comme une entourloupette parce que Macias a affronté Zuski, qui est un 147 livres. Le combat a lieu à 154 livres. Ouais. Ensuite, il a affronté Lafrenière. Là, on le ressort et on l'amène contre Butler, qui est un 160 livres. Mais les gens, souvent, ils vont oublier de faire la distinction entre les catégories de poids. Puis ils vont dire, hey, ce gars-là, il a cassé la mâchoire à Zuski, puis Butler l'a arrêté au cinquième. Tu sais, c'est incroyable, mais dans le fond, tu peux pas faire ce comparable-là avec deux catégories de poids complètement distinctes. Est-ce que ça fait partie de la job du matchmaker de penser à ces petites idées-là dont on va aller chercher un comparable où nous, on est gagnant maintenant?
Oui et non. Oui, c'est sûr et certain, parce que c'est un nom au Québec, parce qu'il a donné des bonnes bagarres à Zuski, parce qu'il a battu Lafrenière. Le fait que ce soit un nom connu du public québécois, ça aide. Mais il y a aussi le fait qu'on est en temps de COVID. Le nombre d'adversaires est beaucoup plus limité. Le fait d'aller au Mexique, ça amène un plus. Là, ça permet d'aller chercher un autre bassin de boxeurs. Mais Macias, c'est un nom connu. Puis là, c'est surtout le fait qu'il a battu Francis Lafrenière qui a sûrement incité un matchmaker comme Stéphane Loyer à l'amener pour Steven Butler. Je pense que c'est un bon combat, honnêtement. Puis Macias est meilleur que le monde pense. T'sais, honnêtement, ça se peut qu'avec sa puissance, Steven le surprenne en début de combat. Mais si le combat s'allonge, ça se peut qu'il donne beaucoup de problèmes à Steven Butler. Ça se peut que le combat soit même beaucoup plus difficile que prévu. Donc, c'est un combat de retour qui n'est pas nécessairement facile. Pour moi, je trouve que c'est un bon combat.
Oui, c'est un bon combat. Puis, tu sais, Steven, il revient d'une longue inactivité. Toi, Vincent, qu'est-ce qui se passe de bon à Boston? Là, j'ai vu les sondages où tu es le deuxième Québécois le plus populaire de Boston après Patrice Bergeron, mais il se passe quoi dans ta carrière à toi? Est-ce que tu arrives à coacher malgré la COVID? Tu es obligé de te cacher avec fermer les stores?
Ben nous, au Massachusetts, présentement, on est autorisé à entraîner des gens. On a juste une limite maximum dans le gymnase en tout temps. Donc, moi, ça ne m'a pas empêché de donner des cours privés. Ça ne m'a pas empêché de manager et d'entraîner mon équipe de compétition. Mes boxeurs professionnels évoluent présentement, surtout au New Hampshire ou dans le Sud. Donc, la commission athlétique du Massachusetts n'est pas ouverte, donc elle est fermée depuis avril dernier. Mais ça n'empêche pas mes boxeurs d'évoluer, par exemple, au New Hampshire, qui est à une heure au nord, ou au Rhode Island, à une heure au sud, ou de les amener en Caroline du Sud, puis en Floride, où c'est ouvert. Donc, je peux trouver des combats un peu partout pour mes fighters. C'est pas trop un problème parce qu'ils peuvent s'entraîner. Rendu là, si j'ai un boxeur amateur, par exemple, dans un mois, je l'amène dans un gala à Rock Hill en Caroline du Sud. La seule chose, il va falloir conduire 13 heures, donc ça va être assez long. Puis j'ai aussi une équipe de kickboxing que j'amène à Myrtle Beach en mars. Puis j'ai un de mes boxeurs qui a un combat professionnel en boxe au New Hampshire, donc sur une carte de Boston Boxing Promotion en mars aussi. Donc je suis assez occupé. Honnêtement, pour moi, ça COVID. Pas tant changé grand-chose, mais c'est sûr que pour le gymnase, nous, on a perdu quand même une grosse clientèle. Boston, c'est une ville étudiante, donc quand tu fermes des universités comme Harvard, MIT, Northwestern, Boston College, Boston University, il y a beaucoup d'étudiants qui font ça maintenant à domicile ou qui ont carrément arrêté leurs études. On a des étudiants internationaux là, d'un peu partout, donc on a perdu quand même une bonne base de clientèle, puis on va se le dire, le centre-ville aussi beaucoup plus mort, là.
Eh bien, Vincent, merci d'avoir été là. Puis j'ai l'impression que tous les contacts que tu es en train de faire, de te faire aux États-Unis vont servir un jour à la boxe québécoise parce que tu n'es jamais très loin malgré les kilomètres.
C'est fort probable. La frontière est officiellement fermée, mais Boston, c'est seulement 5 heures de route. Hein? Donc, je suis quand même très près. Mais oui, honnêtement, la boxe québécoise, je crois foncièrement que ça va bientôt rouvrir. Je pense que les amateurs de boxe vont avoir bientôt des choses à se mettre sous les dents. Je demande aux gens de rester positifs et optimistes. Il y a du beau qui s'en vient.
Hey Vincent, tout mon podcast est souvent décousu. Là. Je m'en allais vers la conclusion. Puis dans le fond, j'ai une dernière question pour toi pendant que tu es là. T'es matchmaker, t'en connais beaucoup des boxeurs. C'est un cauchemar, essayer de trouver. Mais admettons que je te dis, la télévision est sur place, ça prend quelqu'un de crédible, je te donne une enveloppe. C'est-tu faisable de trouver un adversaire pour Arslanbek Makhmoudov?
C'est faisable, mais il va vraiment falloir que tu allonges les dollars. Mais le plus gros problème de logistique avec tout ça, c'est le fameux 14 jours. T'sais. Il va falloir l'amener à l'hôtel, le surveiller, amener sa bouffe. T'sais, quand tu amènes un adversaire de l'extérieur, c'est compliqué. Puis, tu sais, la meilleure option, ce serait de faire boxer à Slam Beck aux États-Unis, mais encore une fois, ça prendrait quelqu'un qui veut allonger les dollars. Puis quand on parle de poids lourd, puis de poids lourd de calibre mondial, ça coûte très, très, très cher. Donc, reste à voir qu'est-ce que Golden Boy veut faire avec ça. Golden Boy, ça semble être une patate chaude, honnêtement, depuis peut-être 8-10 mois. Donc, je ne sais pas exactement ce qui se passe avec eux. Depuis qu'ils ont perdu Canelo, j'ai l'impression qu'ils ont perdu des plumes. Mais écoute, est-ce que c'est faisable matcher Makhmoudov? Oui. Est-ce que c'est tout le monde qui veut l'affronter? La réponse est non.
Ouais, un problème qu'on verra bien. On est content de ne pas avoir ce problème-là entre les mains. Et merci Vincent d'avoir été là, puis on se reparle bientôt. Toujours oui. Intéressant, puis j'ai l'impression qu'on va avoir en masse de sujets les prochains mois.
Ça, c'est certain.
Salut, merci.
Salut.
Vincent Morin, toujours aussi intéressant. Je gagerais un beau 30 sous qui pourraient être de retour très bientôt sur la scène québécoise. Vendredi prochain, on se dirige au Mexique sur Punching Grace. La formule commando, c'est quoi commando? C'est que les boxeurs sont là, comme dans tous les galas. Et là, ils se promènent, les boxeurs se promènent avec leur entraîneur. Et la formule commando, c'est qu'on n'est pas au Québec avec une régie qui est un petit peu sévère. Le caméraman se promène partout. Fait qu'on va voir Steven avec Mike Moffa qui va lui donner ses derniers conseils avant de monter sur le ring. La caméra l'y suit, puis là, la caméra s'installe dans un coin du ring. Ça donne une autre façon de voir la boxe. Ça donne un peu un... Si t'as l'impression d'être dans le ring, t'sais, t'as l'impression d'être dans le coin, debout, à côté, et c'est très intéressant. Pour la première fois, vous allez pouvoir choisir en français ou en anglais avec Jason Toothsix, l'homme le plus gentil à l'ouest de Gatineau, qui va être à l'animation. C'est lui aussi qui fait les posters. C'est un garçon prodigieux, très talentueux. Steven Butler, en grande finale, va affronter José de Jésus Macias. Butler n'a pas boxé depuis sa défaite le 23 février dernier. Ce qu'on veut voir, est-ce qu'on va avoir toutes les réponses contre Macias? Écoutez, je ne le sais pas. Mais ce qu'on veut voir, c'est la défensive de Steven Butler avec Mike Moffa. Attendez-vous à des petits changements, peut-être lancer des combinaisons des fois qu'un crochet... Le spécial Moffa. Et je vous fais tout de suite une prédiction. José de Jésus Macias a perdu contre Michael Zuski ici au Québec. C'était toutefois à 154 livres et a fait la limite à 154 livres contre Souleymane Sissoko, l'Olympien. A battu Francis Lafrenière. Il y a un match nul à 154 contre Courtney Pennington, qui est un bon boxeur. À son dernier combat, il a perdu chez les 160, mais 154, mais que personne n'a respecté le poids, contre Carman Légère-Gara, un cogneur dangereux. Lui, vous voulez pas être frappé par Carman Légère-Gara. Vous irez voir sa fiche, un Espagnol, qui cogne très dur. Moi, je m'attends à ce que Steven fasse un statement et passe le KO à José de Jésus Macias. Steven, c'est pas quelqu'un qui a une petite tendance à perdre son temps sur un ring de boxe, mais il va s'installer, il va faire ce qu'il a à faire, puis à un moment donné, le KO va arriver. Mais attendez-vous à un combat compliqué, mais compliqué parce que Macias répond coup pour coup, mais pas nécessairement compliqué. Il est pas dur à frapper, Macias, il est toujours devant toi. Le problème, c'est qu'il en donne un, il en prend un, puis à un moment donné, faut pas que tu tannes, faut pas que tu perdes des échanges, tu sais. Faut que tu essayes de, une fois de temps en temps, c'est moi qui t'en donne un, puis toi, t'es plus là, tu sais. Fait que, vous allez voir. Bon, ça va être un bon combat, c'est un spectacle assuré. Sadreddine Akhmedov va affronter Stephen Daniel. Daniel était venu ici alors qu'il avait une fiche de 17-0-3. Depuis, il a subi la défaite, mais contre des bons boxeurs. Custio Clayton, il a fait la limite. Contre Félix Cash, qui est un gros prospect anglais chez les 160. a fait la limite. Et là, a fait la limite contre Orlando Fiorgiglio, un Italien que je connais pas, mais qui est 30-32-3. Tu sais, je le connais pas. Pour Akhmedov, là, d'un, c'est pour être le premier à y passer le KO. Mais c'est qu'il y a trois ceintures en jeu. Ça va pouvoir le classer. Ça va le classer au classement. Et on entend que les gens, les officiels de Golden Boy vont être sur place pour analyser Sadreddine Akhmedov. Mais j'espère que les salauds qui offrent rien aux autres boxeurs vont arriver avec des top garanties s'ils veulent signer Sadreddine Akhmedov. Léla Beaudoin va affronter Maria Guadalupe Esquivel Zamora. Une fille qui a une fiche ronflante de 4 victoires, 16 défaites. Ça, c'est des choses que vous allez voir un peu. Elle est surnommée la sorcière. C'est des choses qu'on va voir un peu au Mexique. Tu sais, tu veux garder Léla active. Il n'y a pas une tonne de boxeuses disponibles. Cette fille-là a fait la limite avec beaucoup de bonnes boxeuses. C'est un peu une fille, là, comme j'utiliserais le terme passage obligé, tu sais. Elle a affronté, tu sais, l'année, en 2018, elle a affronté Shelley Barnett. Tu sais, Shelley Barnett, c'est une Canadienne. Ben, là, tu te dis, elle a fait une nulle avec Barnett. Elle peut bien affronter Léla, tu sais. Puis là, on fera le comparable. Puis, tu sais, elle a fait un match, elle a fait un 10 rounds où elle a perdu une split en 2017. Je veux dire, c'est pas les gros chars, là, mais on est au Mexique. Cette fille-là est disponible. Elle va faire des rondes. C'est le premier 6 rondes de Léla Beaudoin qui a fait une bonne entrevue hier. Hier, ça m'a fait triper parce que Léla Beaudoin recevait les questions du public. Puis là, moi, je posais les questions, puis elle m'a jamais répondu. Même à un moment donné, il y a un gars qui écrit « Qu'est-ce que tu manges pour être belle de même? » Puis tu sais, elle a juste fait... c'est un commentaire un peu mon oncle. Puis elle a juste fait... ben, de ce temps-ci, pas grand-chose. Je coupe du poids. Puis ça, j'avoue que c'est quelque chose qui arrivait beaucoup au début à moi puis Vincent Tremblay. Il y a beaucoup de jeunes filles qui me disaient que j'étais beau quand je parlais de boxe. Puis ça, sans dire que ça m'insultait, c'est parce que mes propos sont sur la boxe. Je le sais que je parais très bien, mais j'aimerais ça qu'on en reste à la boxe et moins sur mon look. Parce que oui, je parais bien, mais je suis plus que ça. Fait que Léla Beaudoin qui va affronter cette fille-là. Léla qui donne toujours, par exemple, des violents combats intéressants. Et Christopher Guerrero qui va passer chez les pros contre Armando Morales Gutierrez. Un homme de 30 ans qui est... Je le sais, si le nom vous dit quelque chose, c'est normal. C'est lui qui avait surpris Mathieu Duguay, un gars de... Un gars qui avait passé pro. Tu sais, pour vrai, il n'aurait pas dû passer pro. Là. C'est un gars qui venait du hockey. Là, il voulait triper, il a passé pro. Mais là, TVA avait diffusé le combat qui était comme un swing bout parce que ça avait été trop vite. Le premier combat où Chabot avait battu son gars en une minute. Fait qu'on avait parti et une guerre de tous les moments où Duguay avait gazé out puis Armando Morales avait gagné. Mais là, on le ramène contre Christopher Guerrero. Formule commando. Aucune commandite de Punching Grace, mais je vous conseille quand même de vous abonner parce que cette formule-là, commando, est intéressante pour le public. C'est vraiment différent. C'est l'angle de caméra là, qui fait que c'est différent. Puis c'est bien intéressant. Chronique internationale. On va faire ça vite parce que je veux pas passer. Je veux pas exagérer le podcast. Là. Je veux rester dans le format 45 minutes et je veux surtout aller écouter le football. Fait que je me débarrasse à toute vitesse de la chronique international. Bob Arum dit qu'il continue à négocier pour Joshua contre Tyson Fury. Il faut être patient. Hein? On attend nos combats, puis il arrive jamais. Ben, il arrive, mais pas toujours au moment qu'on veut. Sinon, Floyd Mayweather s'en est prêt à Conor McGregor en disant « Tu veux boxer, t'es même pas capable de gagner dans ton propre sport. » Bon commentaire. Mon Floyd Manny Pacquiao qui, lui... Il est très déçu parce qu'il voulait collecter une grosse paye contre Conor McGregor. David Benavidez va être de retour le 12 mars prochain. J'ai hâte de voir contre qui. J'ai hâte de voir comment qu'on va placer Benavidez. Benavidez, c'est juste une... c'est juste une superstar en devenir, tu sais. Puis là, ce qui est intéressant, c'est de voir, mais comment, quelle direction ils vont choisir, parce que le gars, c'est une superstar. C'est un candidat pour Saúl Álvarez dès l'année prochaine, peut-être. Donc, on veut absolument le suivre, les mains les plus rapides de l'industrie. Virgil Ortiz, qui est probablement le plus beau prospect de l'histoire de la boxe, va affronter Maurice Hooker le 20 mars prochain. Canelo contre Avni Yildirim, c'est un combat qui a été signé. Et là, la question que je vais vous poser à vous, le fan à la maison, je vous pose la question, je vous laisse choisir la réponse. Est-ce que vous préférez que les superstars se battent une ou deux fois par année? Ou vous préférez, comme Canelo, qu'ils se battent quatre fois, mais qu'il y ait deux gars, qu'il est favori à 20 contre 1, ça n'a rien à voir contre Yildirim, ça ressemble à du sparring. Mais je vais vous donner ce que vous voulez au mois de mars. T'sais. Préférez-vous voir les gars se battre aux 3 mois, mais que des fois c'est trop facile, ou les voir se battre une fois par 6 mois, mais pour vrai, ou une fois par année? Je vous laisse choisir vos réponses à la maison. Mickey Garcia lance un défi à Devin Haney. Il attend le téléphone. Ryan Garcia nous annonce qu'il va avoir un méga fight. Beaucoup de gens qui parlent qu'il devrait affronter Jorge Linares à son prochain combat. Floyd Mayweather contre Logan Paul, c'est, c'est repoussé. Ça, pour vrai, je pense. Ça, c'est pas intéressant. Je vais juste en parler. Et, en conclusion, bon couvre-feu à tout le monde. J'imagine qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Groupe Yvon Michel veut revenir le 26 février prochain. Et ce que j'entends, parce que personne veut me dire c'est quoi les combats. Je suis pas capable de faire parler personne. Tout le monde se ferme comme une huître. Mais on m'a dit, Eye of the Tiger va avoir une surprise. Fait que je sais pas, est-ce que c'est un ancien boxeur d'Eye of the Tiger qui va être sur la carte du groupe Yvon Michel à suivre? Puis on m'a aussi dit que j'allais être agréablement surpris qu'ils ont bien travaillé puis que les duels vont être intéressants. Donc, à suivre, on va bien finir par avoir des annonces. 26 février prochain, on peut penser dans une semaine ou deux, on va savoir ce qui se passe. Fait que, écoutez, couvre-feu, je sais que c'est plate. Si ça devient trop dur, vous ennuyez trop, écoutez mon podcast, réécoutez le podcast vidéo avec Pierre Bernier. Ça va vous mettre un sourire d'en face, ça va vous faire passer le temps. Et c'est ça, bon confinement, bon couvre-feu, continuez à écouter le podcast vidéo. BoxingTownQuebec.ca, je remercie les commanditaires. Farley Avocat qui m'a envoyé un chèque avec plusieurs zéros cette semaine. Merci Philippe d'avoir payé quelques loyers. Ça va me faire ça de moins à réfléchir. Yves, salut mon ami Assurance Yves Lévesque. Des fois, de ce temps-ci, je sais pas à qui parler. Des fois, je m'ennuie chez nous. Yves Lévesque, excellent pourcentage de réponses au téléphone. Yves Lévesque répond tout le temps quand je l'appelle. Et là, j'arrive avec mes 152 scénarios sur la boxe québécoise. Puis là, Yves, il m'écoute. Fait que merci Yves Lévesque, Assurance Yves Lévesque pour l'écoute. Costa Ananostopoulos, on n'oublie pas le resto-bar, le coin du métro. On va remplir la place, puis on va boire de la bière comme tu n'as jamais vu ça à ton retour. Pas parce qu'on a soif ou qu'on est alcoolique, non, pour t'encourager, Costa. Donc, merci d'avoir été là. C'était l'épisode 57 de ton émission préférée, Laurent. S'écoute parler.